un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
L'histoire se passe à Moret, une commune d'environ 5000 habitants qui s'étend sur 3 km au fond de la vallée de la Bienne, dans ce qu'on appelle une cluse, flanquée de montagnes tout autour, au pied de la station de ski Les Rousses. C'est la deuxième ville du parc naturel régional du Haut-Jura, à quelques kilomètres de la Suisse. C'est là que se trouve le collège Pierre-Hyacinthe Cazot, du nom d'un négociant et forgeron, fameux dans la région pour avoir lancé les premières lunettes à fine monture. L'établissement a une belle façade en bois, il est plutôt actif, il reçoit des écrivains, organise des ateliers, sympa, enfin sur le papier. Au-dessus se trouve Morbier, petit village du parc naturel du Haut-Jura aussi, connu pour son fromage, son bon air, son domaine skiable et ses horloges. En périphérie du village, il y a le stade des Marais avec un terrain de foot, un espace VTT, un gymnase un peu décrépit, des tables de ping-pong, montagnes et forêts tout autour, bref, un espace sportif. Et c'est là qu'a lieu, ce 3 octobre 2019, un cross scolaire avec des élèves du collège susnommé, enfin une course d'endurance comme il y en a dans tous les collèges. Ce jour-là, pourtant, se produit une étrange affaire qui frappe les adolescents et qui secoue l'ensemble des villages pendant plusieurs semaines. Elle est aujourd'hui à peu près résolue, même s'il reste encore des zones d'ombre et moins étrange qu'il n'y paraît. Elle est racontée tout de suite dans Les Pieds sur Terre pour l'étrange Noël de France Culture par Karine Lelouette qui est allée enquêter sur place.
Quand j'arrive ce mercredi de janvier au stade des Marais, à Morbier dans le Jura, le coin paraît plutôt bucolique et tranquille. Il y a de la neige, du soleil et des enfants qui s'amusent un peu plus haut dans la montagne. En tout cas, il n'y a aucune trace de ce qui s'est joué là, en octobre dernier.
Bonjour.
Alors pour trouver des témoins, des voisins qui auraient vu la scène, je me dirige vers un pâté de maison, en bordure de la route.
Ben, nous, on venait de balade avec notre équipe de handball, ouais. En fait. Et on a vu arriver plein de pompiers d'un coup, le SAMU et tout ça. Donc on s'est posé la question de ce qui se passait. On a bien vu que ça s'affolait autour des gens, mais on ne savait pas ce que c'était exactement. Quand on a vu ça passer à toutes les infos partout, on s'est demandé ce qui se passait. Après, quand on se retrouve au boulot le lendemain, on a des gens qui ont des enfants qui sont au collège, qui sont concernés.
Moi, quand j'habite tout près, donc j'ai entendu une ambulance arriver, deux ambulances. Jusqu'à 10 ambulances quand même, hein. Ouais. Là, j'ai commencé à flipper. Après, il y avait l'hélicoptère. Donc là, je suis allée là-bas. Hein. J'ai été voir, mais on n'avait pas le droit de rentrer. Donc il y avait beaucoup de parents complètement paniqués là, mais on avait le droit de rien dire. Il y avait une enquête qui était ouverte et qui mettait les élèves en quarantaine, quoi. Voilà. C'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça non plus. Hein. Bon, après.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonne soirée, au revoir.
La scène que racontent ces deux voisines se passe le 3 octobre dernier. Ce jour-là, le collège Pierre-Hyacinthe Cazot de Moret, la commune d'à côté, débarque en force à Morbier. Ses élèves viennent courir un cross de 1,6 km autour du stade et à travers les prés. Toute la journée, 95 collégiens défilent par ordre de classe, de la 6e à la 3e. Parmi eux, il y a Maëlys. Elle a 15 ans, elle est en 3e au collège de Moret. Elle a les cheveux bruns attachés en arrière et un visage rond, encore enfantin.
Alors le cross, on le fait tous les ans. C'est noté, tout ça, les profs notent selon nos performances. Le matin, on a cours et après, on mange. Et après avoir mangé, en fait, on commence à se mettre de la bombe dans les cheveux. Et vu que c'est notre dernier cross, on nous a dit oui. On avait le droit, en fait, on est arrivé, on était maquillés. Il y en a, je crois, qui sont courus en pyjama avec les pantalons. Enfin, c'était trop drôle. Et du coup, après qu'on ait fait nos bêtises, on a pris le bus. Et quand on est allé au stade, on nous donne nos petites pancartes avec notre prénom, ce qui nous sert pour être noté. Puis après, ils appellent tous les garçons, parce que c'est les garçons qui ont couru en premier. Et puis, tout se passe bien. Ils font leur tour et tout ça. Après, les filles se mettent sur, pareil, la ligne de départ. Moi, j'ai mes cervicales qui m'ont claqué. Et du coup, je suis vite allée voir l'infirmière. Elle m'a dit tu cours pas, en me mettant de la crème et en me donnant un médicament. Bah, du coup, je me suis installée, j'ai aidé l'infirmière à faire le ravitaillement. Il y avait du sirop à la grenadine, je crois, dedans, et des brioches industrielles. Tout se passe normalement, c'est surtout après que je vois une de mes amies qui tombe. Puis là, j'entends « elle convulse ». Et j'arrive et je la vois convulser, enfin, je suis restée choquée. J'ai regardé pendant 5 minutes comme ça, et il y avait à côté d'elle le directeur, l'infirmière et Brandon, un ami à elle, qui ont commencé à l'aider en fait. « Est-ce que tu me vois? Tu m'entends? Tiens-moi le doigt, serre-moi le doigt. » Voilà. Et du coup, cet ami appelle des pompiers parce qu'il avait des contacts avec les pompiers. Et en fait, quand ils sont arrivés, il y a une copine à moi qui est tombée dans les vestiaires, une autre derrière le bâtiment, une autre, c'était ma meilleure amie qui est tombée en crise de tétanie devant moi, en fait, que j'ai juste eu le temps de la rattraper. On était en train de parler, d'un coup, elle me dit « je sens plus mes jambes, ça me fait comme des fourmis, je ne sens plus mes jambes, j'arrive plus à marcher ». Et du coup, moi, je l'ai fait s'asseoir. Et 2 minutes après, ma copine, elle m'appelle, elle me dit « ça va vraiment pas, va prévenir un pompier ». Je suis allée prévenir un pompier, j'ai essayé de la lever, de la faire marcher, mais elle y arrivait vraiment pas. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fanée, enfin, j'ai commencé à pleurer, à vraiment être hors de moi. Ça m'a mis un coup, quoi. Je l'ai vue toute rouge, pleurante, qui tremblait. Non, c'est pas elle. Et du coup, moi, je me suis retrouvée avec 2 hélicos, 4 camions de pompiers. Ça allait très très vite, ils sont venus très très vite, mais je sais pas, je pense en 30 minutes, ouais, on était déjà toutes paniquées et voilà.
Maëlys a une migraine, alors elle est comptabilisée par les pompiers. En tout, 17 collégiens présentent des symptômes, surtout des filles. Il est environ 17h. À ce moment-là, la préfecture déclenche le plan hors sec pour coordonner les secours et monte une cellule de crise. 5 filles sont transférées vers les hôpitaux du secteur, 2 sont déclarées en urgence absolue. La plus gravement atteinte, celle qui a convulsé devant les yeux de Maëlys, est héliportée vers l'hôpital de Besançon et son pronostic vital engagé. C'est la préfecture qui le dit plus tard, dans un communiqué. Mais pour Maëlys et les autres collégiens, l'histoire n'est pas finie.
On était du coup tous regroupés dans la salle commune et on a été rangés par classe, on a eu un ravitaillement. Et là, on nous annonce qu'on va être fouillé. Et on nous a donné raison, comme quoi qu'on a été fouillé, pour pas ramener quelque chose du stade, en fait, au collège qui pourrait tous nous contaminer ou à chez nous, en fait. Et peut-être aussi pour trouver un potentiel coupable directement. Si, admettons, il y avait quelqu'un qui a mis quelque chose dans le verre, et tout de suite, on allait trouver qui c'est, quoi. T'es confiné, tout de suite, tu vas dire, faut que je dise que c'est moi. Et là, on a été comme ça pendant une heure et demie, où on faisait rien, où on attendait juste qu'on puisse nous dire « vous pouvez partir ».
La première fois que tu l'as appelée, ta mère, elle s'est inquiétée? Comment ça s'est passé?
Elle m'a un peu crié dessus en mode « mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « il y a un problème au stade. » Elle a dit « j'arrive ». Je fais « non maman, tu pourras pas passer ». Elle m'a fait « j'arrive ». Elle m'a fait comme ça. Elle était déterminée, elle arrivait.
Quand moi je suis arrivée, il y avait d'autres parents qui étaient là. Et puis ils avaient mis un dispositif de sécurité pour pas que les parents puissent récupérer leur enfant. Des barrières, il y avait la gendarmerie et le directeur qui faisait les navettes pour venir nous donner des nouvelles. Alors les bruits qui couraient, c'était que l'eau était de couleur verte qu'on avait donnée aux enfants. C'était le seul bruit qui courait en fait parce que il n'y avait pas plus de communication que ça puisqu'on ne nous disait rien. Donc, on ne pouvait pas savoir. Alors ensuite, vers 19h, on a pu récupérer nos enfants. Ils avaient dit qu'on pouvait repartir avec eux. Et donc, on est rentré avec Maëlys. Donc, c'est vrai que Maëlys, elle était très stressée parce que elle se demandait ce qui s'était passé. Et le lendemain, elle a choisi de rester à la maison. Moi, je ne l'ai pas forcée à aller au collège. Je me suis dit que elle méritait bien de se reposer une journée. Et là, j'ai reçu un appel de la gendarmerie en me disant qu'il fallait que Maëlys aille faire des examens, une prise de sang à l'hôpital de Morbier, et qu'ensuite, elle vienne faire une déposition à la gendarmerie. Donc, on est parti en début d'après-midi faire cette prise de sang. Ils cherchaient quelque chose qu'ils avaient mangé, enfin, si c'était dû à une intoxication, tout simplement. Il y avait plusieurs parents qui étaient là avec leurs enfants. Et ensuite, on est monté faire la déposition donc en gendarmerie.
Et là, Maëlys a raconté le déroulement de ce qui s'était passé. Donc l'eau avait été déjà exclue parce qu'ils avaient fait des analyses tout de suite et qu'apparemment ça venait pas de ça, mais ils ne savaient toujours pas ce qu'il en était.
Comme le dit la maman de Maëlys, c'est l'eau qui a été analysée en premier, parce qu'elle est la suspecte idéale. Pendant le cross, pas mal de collégiens se sont arrêtés pour boire au stand de ravitaillement. C'est l'ARS, l'Agence régionale de santé du Jura, qui est chargée de mener des investigations dès l'après-midi du 3 octobre, alors que la plupart des collégiens sont encore confinés au stade.
Linda Nourry, enchantée, merci de me recevoir.
Linda Nourry s'est occupée du dossier. Elle travaille à Lons-le-Saunier, à une heure de voiture de Morbier.
Donc là, l'information exacte qu'on avait au déclenchement de l'alerte, c'était qu'il y avait une intoxication collective par ingestion d'une boisson d'une dizaine de collégiens à Morbier à l'occasion du cross. Donc c'était le message d'alerte de la préfecture qui a été envoyé à 17h37. Et on a eu l'information complémentaire immédiatement que cette boisson, c'était du sirop empiché qui était préparé à partir de l'eau du robinet. Donc la suspicion portait en premier lieu sur une contamination du réseau d'eau potable. Donc dans mon service, on a contacté le gestionnaire d'eau potable sur la commune de Morbier. On lui a demandé donc, s'il y avait eu des travaux récemment sur le réseau d'eau potable, s'il y avait eu un dysfonctionnement du système de traitement. Donc toutes les réponses étaient négatives, hein. Il n'avait pas observé de problème sur le réseau d'eau potable. On lui a demandé d'aller réaliser des mesures de chlore. Donc un peu avant 19h, il nous a transmis ces résultats-là. Donc les résultats étaient conformes. Donc on pouvait écarter une cause bactériologique. Et l'hypothèse alimentaire également pouvait être écartée, donc liée à la consommation des brioches, du fait de la diversité des symptômes et de la rapidité de survenue de ces symptômes. Et des investigations toxicologiques plus complémentaires ont été menées par l'hôpital de Lons-le-Saunier, donc, qui ont porté sur des substances de médicaments et des substances de stupéfiants. C'est des prises de sang et puis aussi des analyses sur urine. Et les résultats étaient négatifs. Et donc là, l'ARS a porté la conclusion définitive qu'il n'y avait aucune cause toxicologique qui pouvait expliquer l'événement sanitaire.
Mais il reste encore beaucoup d'autres pistes à suivre, notamment la piste criminelle. D'ailleurs, au moment même où l'ARS est saisie pour plancher sur le réseau d'eau, le procureur de la République est aussi alerté.
J'ai rendez-vous avec Lionel Pascal.
À l'époque, Lionel Pascal n'est dans le Jura que depuis quelques mois.
Bonjour. Très bien. Enchanté.
Je le rencontre dans son bureau, du tribunal de Lons-le-Saunier.
Alors, tout débute par un appel d'un officier de gendarmerie le 3 octobre, aux environs de 17h, je crois, qui m'avise qu'ils sont actuellement, donc les gendarmes, en cours d'opération en marge d'un cross scolaire où il a été constaté des malaises en cascade.
Très vite, le procureur ouvre une enquête. En fin d'après-midi, des gendarmes de Besançon débarquent au stade. Ils saisissent des échantillons prélevés dans les pichets d'eau, le sirop et les brioches. Ils embarquent aussi une bouteille pleine d'un liquide grisâtre posé près du stand de ravitaillement. Il ne s'agit plus de tester l'eau à sa source, mais d'analyser ce qui a été réellement consommé par les élèves.
Je leur demande de procéder à la fouille de l'ensemble des sacs des participants pour être certain que quelqu'un n'aurait pas tenté de dissimuler des éléments de preuve. Mais en fait, le premier soir, je n'ai pas grand-chose de tangible pour la simple et bonne raison que les auditions des mineurs sont programmées simplement pour le lendemain matin. Donc je crois que j'ai mes derniers comptes rendus vers entre minuit et 1h du matin, mais ça ne m'apporte aucun élément qui me permette d'orienter les investigations.
Quand il reçoit les premiers comptes rendus d'audition, le lendemain matin, le procureur n'est pas beaucoup plus avancé. Mais il peut quand même commencer à écarter certaines pistes.
L'hypothèse qui paraissait la plus probable initialement, c'était celle d'une intoxication. Alors volontaire, involontaire, ça restait à déterminer. Et donc dans ce cadre-là, j'essayais au travers de la lecture des premières auditions de trouver des points communs. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver des points communs, puisque par exemple, je constatais assez rapidement que certaines élèves avaient mangé à la cantine, mais d'autres étaient en externat et avaient mangé à leur domicile. Que certaines s'étaient ravitaillées en ne buvant que de l'eau, d'autres en buvant de l'eau avec du sirop, d'autres n'avaient pas bu, certaines avaient pris de la brioche, d'autres n'avaient pas mangé de brioche. Et puis surtout, les symptômes étaient très différents d'une élève à l'autre. Par exemple, certaines faisaient état de céphalée, d'autres de maux de ventre, d'autres de picotements dans les jambes, certaines indiquaient avoir eu du mal à respirer. Bon, mais dans Tact, je ne suis pas médecin, je faisais juste ce constat qu'effectivement, ça partait un petit peu dans tous les sens. Alors, il y a quand même un point qui est essentiel, c'est que le matin, le directeur de cabinet du préfet a été destinataire d'un mail d'un médecin qui écrivait en substance « J'ai pris connaissance de ce qui s'est passé dans le Jura au travers de différents articles de presse. Ne vous inquiétez pas, je sais de quoi il s'agit. Il s'agit d'un syndrome psychogène collectif. » À toute fin, j'en avais pris connaissance avec intérêt, mais en me disant en même temps, c'est fort sympathique, mais bon, si je veux avoir un avis médical, je saisirai un médecin légiste. Ça me paraît un petit peu étonnant de pouvoir faire comme ça ce type de diagnostic.
Ce mail, transmis le 4 octobre à Lionel Pascal, est signé de Dominique Parrain, un ex-médecin du CHU de Rouen. En une quinzaine de lignes, le neurologue déroule son hypothèse. Selon lui, c'est le malaise initial et réel d'une première collégienne qui a affolé les autres, par une sorte de propagation émotionnelle. Un peu comme un rire ou un bâillement, se transmet par la vue d'un autre rire, ou d'un autre bâillement. Avant, on appelait ça des épisodes d'hystérie collective, un terme étymologiquement associé aux femmes, et franchement sexiste. Aujourd'hui, les spécialistes parlent plutôt de syndrome psychogène collectif ou de syndrome collectif inexpliqué pour décrire ces phénomènes impressionnants, mais sans gravité. Mais ce 4 octobre, le procureur a encore pas mal de fils à tirer. Alors il garde le mail dans un coin de sa tête et poursuit son enquête.
Alors, entre-temps, il y a quand même eu d'autres investigations qui ont été menées, notamment la reconnaissance du parcours. C'est pas un parcours très long, hein. Je crois que le cross, il faisait 1,6 km, dont une bonne partie sur un stade. On me dit, et on m'apporte la preuve par un album photographique et des relevés de cartes, qu'en fait, il n'y a aucune entreprise, hein. On est vraiment au milieu des prés, dans une zone AOC, pour le comté, donc où il est interdit de faire de l'épandage agrochimique. Donc la thèse d'une contamination industrielle accidentelle ou agricole, bah, elle s'efface d'elle-même très rapidement. Il reste encore une chose qu'on vérifie. Certaines élèves, avant de prendre part à ce cross, ont utilisé une bombe de peinture pour se teindre les cheveux dans un esprit un petit peu festif. Donc on vérifie que la peinture utilisée n'est pas toxique. Et il s'avère qu'elle n'est pas toxique. Donc, une fois qu'on a fait le tour des causes à peu près évidentes, on va chercher des causes un peu moins évidentes, et donc ça sous-entend une analyse des dossiers médicaux. Et dans ce cadre-là, je demande à ce qu'un médecin légiste soit requis, et donc il va me transmettre son rapport d'expertise médico-légale le 3 décembre. Et donc, il conclut qu'il reste une possibilité, c'est l'origine psychologique, en indiquant que c'est un syndrome qui est connu, qu'il y a des constantes, et ces constantes, il va quasiment toutes les retrouver dans le cas des collégiennes de Morée. Par exemple, facteur déclenchant, c'est la présence d'un facteur de stress. Alors le facteur de stress, c'est un cross qui était noté dans le cadre du brevet des collèges. Deuxième chose, souvent, ça apparaît dans une collectivité. Là, on a ce qu'il faut, puisqu'effectivement, c'est la collectivité scolaire, et pas toute la collectivité d'ailleurs, hein, puisque ne sont affectées que les jeunes filles qui sont en classe de 3e, qui sont les toutes dernières à avoir fait ce cross ce jour-là. Il évoque également un sexe ratio, indiquant que les épidémies psychogènes concernent principalement le sexe féminin, et là, on a un ratio qui est de 15 filles, 2 garçons, donc cet élément-là également est validé. Et puis enfin, le mode de propagation, en indiquant que ça se propage surtout à la vue. C'est-à-dire que le malaise de l'un ou de l'une va entraîner, par effet de sympathie, le malaise des autres.
Finalement, le procureur rédige un communiqué de presse le 13 janvier. Il y révèle les conclusions du médecin légiste et classe l'affaire sans suite. À ce moment-là, 3 mois après les faits, tous les élèves du collège de Morée sont rentrés chez eux, en bonne santé. D'après Maëlys, seule la jeune fille qui avait été héliportée à Besançon serait retournée récemment à l'hôpital, après de nouvelles crises. En tout cas, pour les médecins, il n'est pas question de ridiculiser les victimes. Dans ces syndromes collectifs, les symptômes ne sont pas imaginaires. Ils sont même tellement réels et tangibles qu'il pourrait se passer quelque chose dans le cerveau au moment de ces crises. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais c'est celle de certains neurologues, dont Dominique Parrain, le médecin de Rouen, qui avait envoyé le mail à la préfecture.
Oui, allô ?
Oui, bonjour, monsieur Parrain.
Il travaille sur ces phénomènes depuis plus de 20 ans.
C'est des histoires souvent intrigantes. Hein. Et le premier, vraiment, dans lequel j'étais impliqué, c'était dans les années 95-98, c'était au moment de l'épidémie de vaches folles. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un voyage de collégiennes en Angleterre. Un soir, elles rentrent dans les familles en dehors de Londres. Il y a peut-être quelques-unes qui commencent à somnoler. Il y en a une première qui commence à avoir des secousses. Et un tiers des collégiennes se sont mis à faire des secousses. Comme ça, on continue dans le car. Et le car a été immobilisé par la police. Les secours sont même venus en combinaison antivirale. Et bon, ils ont hospitalisé les enfants et tout est rentré dans l'ordre. Mais il y en a 3 quand même qui ont continué à faire des secousses, qui ont été hospitalisés au CHU de Rouen et je m'en suis occupé. Et donc tout de suite, je me suis aperçu que c'était pas épileptique, que c'était bénin. Voilà, un phénomène contagieux là dans un car et souvent quelquefois impressionnant. Et donc, c'est quelque chose de curieux, mais qui commence maintenant à trouver une explication.
Il y a aussi des histoires de gamins normands qui filent à l'infirmerie à chaque cours de musique. De médecins marseillais qui se sentent si mal qu'on doit fermer un bloc opératoire. D'employés de mairie près de Paris qui se grattent sans explication à chaque fois qu'ils sont au boulot. L'explication qui émerge, mais qui est encore à l'état d'hypothèse, c'est que certaines personnes, notamment des filles, jeunes, seraient plus disposées à ces phénomènes.
Il faut imaginer, par exemple, le cerveau, il y a 30 milliards de neurones qui sont connectés 300 000 fois chacun. Et donc, les connexions se font et se défont en permanence. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et surtout chez l'adolescent, si vous voulez, vous avez une espèce d'explosion de la connectivité. C'est ce qui fait que c'est un âge un peu particulier. Hein. Et donc, là, on est dans un phénomène de déconnexion cérébrale. Et ça peut entraîner des malaises pour une raison totalement différente, c'est que au lieu d'être hyperconnectés, les régions corticales vont être déconnectées et donc ne vont plus être sous contrôle. À partir de là, vous pouvez avoir des symptômes extrêmement variés de la personne qui tombe inerte en état de non-réponse à la personne qui va faire des mouvements extrêmement impressionnants dans tous les sens. Alors, ça peut être déclenché par une émotion ou une image mentale. Mais il y a surtout une prédisposition à avoir une connectivité un peu plus fragile que les autres. C'est les hypothèses actuellement proposées, mais c'est extrêmement difficile à mettre en évidence. Ça explique un petit peu ces phénomènes-là. Pourquoi qu'il y a eu simplement un petit groupe de filles ? Le terme psychogène ne me convient pas parce que ce ne sont pas des gens qui ont une psychopathologie particulière. C'est une particularité, j'en fais pas une maladie.
Maëlys, elle, a repris sa vie au collège. Elle raconte que l'ambiance générale est un peu tendue. Il y a ceux qui couvent d'un peu trop près les anciennes victimes des malaises et ceux qui veulent juste se chamailler et s'amuser comme avant. Et puis surtout, il y a ceux, comme elle, qui n'ont pas très bien pris la conclusion du procureur.
Je l'ai appris via notre site internet au collège qui s'appelle Pronote. On a appris ça comme ça. Et ça aurait été bien aussi d'avoir une explication. Enfin, parce que nous, on est des jeunes de 12 à 15-16 ans, on connaît pas les termes. Enfin, je pense qu'une explication pour nous plus simple aurait été mieux.
Et tu sais ce que c'est, toi, un syndrome psychogène collectif ou pas ?
Non.
T'as même pas une vague idée de ce que ça veut dire ?
Un effet de groupe. C'est tout. Enfin, moi, on m'a expliqué effet de groupe. Sauf qu'il n'y a pas eu de groupe. Donc non, moi, j'y crois pas. J'ai vu ma meilleure amie dans des états pas possibles. J'ai une amie à moi qui convulsait. Enfin, c'est pas rien.
Maëlys a des doutes, et ce n'est pas très surprenant. Pour les spécialistes, dans les cas de syndrome collectif, le déni est quasi systématique au départ. Parce qu'il est très difficile d'admettre que la cause de tel malaise puisse être purement émotionnelle.
Tu penses que c'est quoi ?
J'ai pas d'idée, enfin... À la limite, les pesticides sur l'herbe ? Enfin, je sais pas, mais... Ça peut être tout et n'importe quoi, mais quelque chose qu'on n'imagine même pas, quoi. Quelqu'un qui vient, qui met, je sais pas, un produit sur les habits, elle le met, et d'un coup, pouf, enfin, on sait pas.
Selon les parents et les ados avec qui j'ai pu échanger, le collège n'a pas communiqué à la suite de la conclusion du procureur. Et quand je l'ai contacté, le proviseur n'a pas souhaité échanger sur l'affaire des malaises. Il m'a simplement répondu « Le temps est venu pour l'ensemble de notre collège de tourner la page ». I saw you smile, I knew you had spirit. Oh, won't you let your colors run? Isn't it odd the way we try to tell ourselves we got limits? You're beautiful, but you just don't see it sometimes, and I don't know why. Oh, you're the shape of my. Just as it should be when you're alone with me. Everything's good, everything's just as it should be when we're alone. When I fall, I'm fine. All I want is your time. Everything's good, everything's just as it should be when you're alone.
C'était L'étrange contagion des collégiens de Moret, un reportage de Karine Lelouette, réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main d'Alexandra Candy Longueil. Il y avait aussi un petit coup de main d'Alice Milo. Et merci à Maëlys, Magali, Jacqueline, Brandon, Linda, Nourri, au procureur Lionel Pascal, au docteur Dominique Parrain, Arnaud Mathieu et à Laetitia Courty qui est journaliste au Progrès. C'est Céline Paris, attachée production des Pieds sur Terre. Flavie Champion, notre stagiaire. Everything's just as it should be when you're alone with me. Everything's good, everything's just as it should be when we're alone. Here I am, saying things to you I never thought that I would say outside my head.
C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie, une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.